13 janvier 1982, deuxième conférence.
Oui, question posée, c'est à propos de la révélation, n'est-ce pas ? Comment peut-on encore parler de révélation aujourd'hui à un niveau purement philosophique ? Révélation au sens artistique. Vous voyez ? C'est-à-dire, l'artiste dira... Ah oui, j'étais comme inspiré, quelque chose qui subitement vient là. C'est évidemment pas une révélation divine. Révélation dans le sens de quelque chose de nouveau qui apparaît soudainement, relié à l'intuition. Toute intuition est un peu une révélation. Vous voyez, quand Heidegger parle tout le temps de dévoilement, les choses se dévoilent, en réalité c'est une révélation. Nous appelons abstraction pour mieux faire comprendre que ce n'est pas une révélation et que c'est la réalité qui se dévoile. Heidegger ne prend pas le mot abstraction, il prend dévoilement sous le point de vue de la révélation. Je crois que c'est au fond la différence entre les deux. En réalité, si le philosophe est attentif à l'autre, je suis devant quelqu'un vrai car comprendre la compréhension qu'on a de l'autre. Nous nous comprenons les uns les autres, nous essayons de nous comprendre, nous nous dévoilons mutuellement. On se dévoile dans une conversation plus profonde, plus intime, plus confiante. On se dévoile. On n'est jamais d'une lucidité absolue, chacun d'entre nous. Il y a le petit cocon. C'est une image très très belle de Saint-François de Sales. Quand on est sur la terre, on est d'une chrysalide. Et on sera le papillon quand on sera au ciel, la vision du papillon. Alors ici, on est la chrysalide. Mais la chrysalide, c'est très très difficile. On est dans l'état embryonnaire au point de vue divin. Alors, toutes les agissements sur le point de vue génétique de l'embryon, c'est très bien que c'est très difficile d'agir sur un embryon. Parce que dans l'embryon, tout est lié. Extraordinairement. Après, les choses se distinguent dans un embryon. Tous les tissus sont très très liés aux uns aux autres. Et c'est pour ça que c'est très difficile, qu'il y ait une très grande opacité en nous, en chacun d'entre nous. Et en plus de ça, l'opacité imaginaire. Parce que quand on est dans une chose qui n'est pas déterminée, très déterminée, qui est à l'état virtuel, à l'état de promesse, alors, le point de vue de l'imagination augmente encore plus, parce que nous voulons la clarté. Nous avons beaucoup de peine d'accepter d'être conduits dans l'obscurité. Beaucoup de peine. Nous avons une peine énorme d'accepter la canne de l'aveugle quand on a 20 ans. Accepter la canne de l'aveugle. Or, au noviciant, on vous demande la canne de l'aveugle. On vous la donne. Soit, en vous donnant la vie, on vous donne la canne de l'aveugle. Vous ne comprenez pas du tout ce que c'est, on vous dit ça. Vous serez à partir de ce moment-là conduit. Et ce que vous croyez voir, eh bien on dira non. Acceptez que ce n'est pas comme ça. Et au fond, c'est ça la canne de l'aveugle, c'est accepter qu'on a cru voir, et on ne voit plus. Et c'est très vrai puisqu'on vit dans la foi. C'est ça l'obscurité propre du mystère de la foi, c'est que. On est devant un être embryonnaire. Nous sommes tous des êtres embryonnaires. Nous avons le privilège de parler entre nous dans le sein maternel. Heureusement que c'est le sein maternel de Marie et de l'Église. Alors on a la possibilité que les jumeaux parlent ensemble. Et les jumeaux, c'est quand même... Quelquefois, dans le sein maternel, ils peuvent essayer de... battre, de s'éclairer mutuellement, il cède. Mais on est quand même dans l'état embryonnaire. Et donc on reste toujours à ses propres yeux un mystère. Chacun d'entre nous, nous sommes un mystère pour nous, pas seulement pour les autres. Pour les autres, ça se comprend. Je suis un mystère pour toi. C'est évident. Mais je suis un mystère pour moi-même. On est un mystère pour soi. Ce qui est au fond très difficile d'accepter. Parce qu'on est tous un peu fils de Descartes en plus de ça. Alors on veut la clarté et on veut voir clair. Et il faut accepter dans la foi d'entrer dans un domaine d'amour qui est mystérieux. Alors, il y a quelque chose, vous voyez, dans leur domaine surnaturel, on comprend, c'est la foi. Dans le domaine philosophique, c'est ce que j'ai dit, l'inspiration est toujours un tout petit peu à base de révélation, c'est-à-dire, comme l'inspiration est dans l'imaginaire, dans un imaginaire très noble, hein, comprenons bien, il y a beaucoup de demeures dans l'imaginaire, hein. Il y a un imaginaire poétique, il y a un imaginaire lyrique, romantique, affectif. L'imaginaire n'est pas toujours condamnable. Il ne faut surtout pas dire que l'imaginaire est condamnable. L'imaginaire, nous en avons besoin. C'est le milieu, pas le plus profond qui est en nous, mais le milieu humain que nous portons en nous. C'est l'humus dans lequel nous sommes. Donc nous avons besoin d'imaginaire. Nous avons besoin d'un imaginaire qui est autant que possible un tout petit peu éclairé. Et c'est en ce sens-là que je dis que l'inspiration implique une révélation. Parce que dans cet imaginaire, il y a certains moments des lumières. Il y a quelque chose qui se révèle à nous. Alors, c'est pour ça qu'il y a un certain dévoilement qui se fait. Nous avons compris certaines choses devant certaines réactions. Mais au fond, c'est un domaine qui reste obscur, hein, le domaine de l'inspiration et le domaine de l'imaginaire. Ça reste obscur. De temps en temps, il y a une lumière. Une lumière qui est d'une révélation humaine, et une lumière qui peut provenir de la foi et qui peut être divine. Et alors à ce moment-là, le petit Jean-Baptiste qui est en nous, à l'état embryonnaire, se met à bondir de joie, hein, dans le sein maternel. Il bondit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Parce que sous l'action de l'Esprit Saint, c'est évidemment beaucoup plus intense. Mais l'action de l'Esprit Saint se sert de notre imaginaire. La différence, c'est quand l'action de l'Esprit Saint se sert de notre imaginaire, l'imaginaire est dépassé et nous touchons le réalisme de l'amour divin. Tandis qu'au contraire, quand nous sommes dans la révélation de l'inspiration purement humaine, nous demeurons dans l'imaginaire. Et c'est là une très grosse différence. La révélation humaine, au niveau de l'inspiration, demeure dans l'imaginaire. On ne va pas plus loin. Ce sera la réalisation de l'œuvre, puisque l'inspiration est ordonnée à l'œuvre, ce sera la réalisation de l'œuvre qui nous fera sortir de l'imaginaire. Mais autrement, nous resterons dans nos idées qui sont pratiquement nos projets. Parce que ce ne sont pas très intellectuels, ce sont des projets, des imaginations. Alors, je vais continuer. Il y avait cette question, mais cette question, je vais peut-être la reprendre un petit peu après. C'était par rapport. Je vais plutôt la prendre au terme. N'est-ce pas? Alors, il y a une petite nota bene, si vous voulez, là-dessus, à propos de la naissance de l'intelligence, la naissance de l'esprit en nous, n'est-ce pas? Si vraiment je considère que la métaphysique, c'est pour naître à cette vie de l'esprit. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. Ça, c'est Jésus qui dit ça à Nicodème. Alors, je ne dis pas qu'au point de vue métaphysique, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Hein. Je dis qu'au point de vue métaphysique, nous essayons de naître à ce qu'on représente en nous notre vie intellectuelle, notre intelligence qui va naître, qui va rejoindre le réel, qui va rejoindre l'autre pour pouvoir coopérer avec lui. Parce que tant que vous restez dans votre imaginaire et dans votre moi, le même, vous ne pouvez pas coopérer avec un autre. Vous ne pouvez coopérer avec un autre que par le jugement d'existence. Et ça est aussi très important. Puisqu'à ce moment-là, vous rejoignez l'autre. Et dès que vous rejoignez l'autre, en le rejoignant, vous coopérez avec lui. L'intelligence est toujours dans cette attente de coopérer avec l'autre. Pourquoi? Parce que l'intelligence sait qu'elle ne peut progresser qu'en coopérant avec l'autre. Elle ne peut pas progresser toute seule. Et ça, c'est l'humilité de l'intelligence. Elle ne peut pas progresser toute seule. Notre intelligence est une intelligence qui reste dépendante de l'autre. Qui reste dépendante de l'autre, qui vient la déterminer, qui vient lui permettre d'avancer. Et c'est ce qu'il y a de si grand dans le jugement d'existence. C'est qu'il y a l'accueil de l'autre, au point de vue intellectuel. Vous accueillez l'autre pour être déterminé avec l'autre, pour pouvoir coopérer avec l'autre. Et c'est en ce sens-là que, dans le jugement d'existence, au sens tout à fait rigoureux, ce n'est pas un dévoilement de l'autre, mais c'est une coopération avec l'autre. Et le dévoilement se fait dans la connaissance elle-même. Quand vous dites « ceci est », et que vous reconnaissez que l'autre, il existe. Alors à ce moment-là, vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui est antérieur à vous, antérieur à votre intelligence, et votre intelligence est capable de l'accueillir et de découvrir ce qu'il est. Et c'est en ce sens-là qu'il y a coopération. Vous voyez ? Tout acte de connaissance est une coopération de l'intelligence avec la réalité. Tout acte. C'est toute la différence avec Dieu. Dieu, quand il crée, ne coopère pas, il donne. Le poète, quand il est inspiré, il ne coopère pas, il est inspiré. Et ça vient de lui. Alors si ça vient de lui, c'est son idée. Il est capable de dominer cette manière-là. Tandis qu'au contraire, quand il coopère, il est dans l'état d'attente et de coopération avec l'autre. Oui, c'est là la très grosse différence. Je crois que c'est intéressant toujours d'essayer de comprendre l'attitude différente du Dieu créateur, du poète et du philosophe. Le poète ou le mathématicien, il est source. Donc il n'attend pas l'autre, ça vient de lui. À ce moment-là, il est très proche de Dieu. Et c'est le danger de l'astre. Parce qu'à ce moment-là, il peut se mettre comme Dieu. Et enfin, je coopère comme Dieu, je suis source, j'ai des idées. Et alors, je n'ai pas besoin, j'ai un monde mathématique. Je fais mon monde mathématique. J'applique la mathématique à ce monde, et ce monde est conforme à la mathématique, et c'est ça ma plus grande joie. De voir que tout s'explique par ce point de vue-là. Alors, je suis source. Tandis qu'au contraire, dans le point de vue de la métaphysique, j'attends l'autre. Vous voyez ? J'attends l'autre. J'attends que je puisse coopérer avec l'autre. Et comment je peux coopérer avec l'autre ? Comment je peux le connaître ? Connaître, hein. C'est vrai que Claudel, quand il disait ça, hein. On disait connaître, nous naissons avec l'autre. Ça, c'est juste de dire ça. Parce que l'autre, alors à ce moment-là, coopère avec moi, et je coopère avec lui. Donc, en le connaissant, nous naissons ensemble. Ce n'est pas la naissance de l'eau et de l'esprit, c'est la naissance avec l'autre. Avec l'autre, je vis. Avec l'autre, je nais. Et je découvre ce qu'il y a de fondamental en moi. Alors je découvre à ce moment-là ce qu'il y a de fondamental dans mon intelligence. Mon intelligence, elle est faite pour l'autre, pour l'accueil de l'autre. Et pour que mon intelligence puisse recevoir l'autre, il faut que l'intelligence comme telle, dans ce qu'elle a de plus fondamental, soit une attente toute pure, sans aucune détermination qui vienne d'elle. Mais c'est ce que le philosophe avait dit en disant que l'intelligence au point de départ est tabula rasa. C'est-à-dire que l'intelligence dans son point de départ est pur accueil à l'autre. C'est très beau du reste ça. Oui, c'est l'attitude fondamentale de l'intelligence qui est accueil à l'égard de l'autre. Et qui ne vient pas modifier l'autre pour le recevoir. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont accueillants sous tel ou tel aspect. Si tu es capable d'être en connaturalité avec moi, je t'accueille. Si tu as ma dimension, je t'accueille. Vous voyez, mais alors on n'accueille que ceux qui sont en connaturalité avec nous. C'est ce que nous faisons, hélas, la plupart du temps. Ça, c'est l'accueil affectif. Tandis que l'accueil de l'intelligence, c'est un accueil très fondamental, où on accepte l'autre tel qu'il est. Et c'est en ce sens-là qu'on doit dire que l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus fondamental, pour être cet accueil de l'autre comme tel, l'intelligence n'a pas d'organe physique. L'intelligence est pur accueil. Elle est l'esprit. C'est ça l'esprit. L'esprit ne fait pas nombre avec la matière. Et l'esprit est capable d'accueillir la matière, la réalité matérielle, la réalité matérielle qui existe, ou la réalité spirituelle qui existe. L'esprit est au-delà de la distinction. L'esprit est au-delà de la distinction, si vous voulez, du matériel et du spirituel, comme tel esprit, de ce que j'appelle le spirituel, le visible et l'invisible. L'esprit est au-delà, parce que l'esprit est capable d'accueillir le visible et est capable, de par le visible, d'atteindre l'invisible. Eh bien, l'intelligence comme telle, dans sa propre nature, n'a pas d'organe physique. Alors, quel est le lien d'intelligence et du cerveau? Ça, c'est intéressant à voir. Hein? Quel est le lien entre l'intelligence et le cerveau? Eh bien, je crois qu'il faut dire que le cerveau, c'est le lieu, comme organe, de l'imagination et de la cogitative. La cogitative, ce qu'on appelle, vous voyez, c'est à Fribourg, j'avais fait un cours sur les insensatés. N'est-ce pas? C'est très intéressant. Les choses qui ne sont pas sensibles immédiatement et qui sont au-delà du sensible. Les insensatés. Qui expliquent le magnétisme, qui expliquent le pendule, qui expliquent toutes ces choses-là. Donc, ils sont difficiles à expliquer. Il faut quand même essayer d'expliquer philosophiquement. Je n'ai pas le droit de dire, ah, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça intéresse au point de vue humain, donc il faut essayer de comprendre. Qu'il n'y a pas qu'une connaissance d'un seul type. Il y a des connaissances plus mystérieuses, plus difficiles à expliquer, qui sont les connaissances de la cogitative, de l'estimative, qui sont ces connaissances que les anciens appelaient les connaissances insensate. Donc au Moyen-Âge, on était beaucoup plus intelligents que nous, puisqu'on reconnaissait qu'il y avait ce genre de connaissances. Ça faisait partie de l'alchimie, si vous voulez. Essayer de comprendre un tout petit peu comment l'intelligence humaine n'était pas liée uniquement aux données immédiates du sensible. Eh bien, c'est le siège de l'imagination, de la mémoire, de la cogitative, c'est le cerveau. C'est pour ça qu'on peut, préciser qu'il y a certains organes du cerveau qui sont liés plus immédiatement à la mémoire. Ça, on a fait des expériences comme ça pendant les guerres, on a fait des expériences terribles, parce que si une balle vous avait détruit une partie de votre cerveau, disons, et vous arrivez encore à vivre après, mais on voit que, ah tiens, à partir de ce moment-là, tous les souvenirs disparaissent. On a vu des personnes, des blessés au cerveau, qui ne pouvaient plus parler. Tout était disparu. Et alors il fallait tout rapprendre. Vous allez tout apprendre. Alors on voit très bien que c'est le cerveau qui est lié à l'intelligence dans l'exercice de l'intelligence. Puisque je ne peux pas penser sans image. Et l'incarnation de l'esprit par rapport à la matière va du côté... C'est très intéressant à voir ça. On va faire un petit schéma pour que vous ayez mieux. C'est intéressant, ça explique les quantités de choses au point de vue de lavage du cerveau. On ne sait jamais, ces choses-là, ça peut arriver, mais ça peut arriver. Ça peut venir assez vite, ces lavages du cerveau, auprès de nous. On ne fait pas un lavage de cerveau dans la vie monastique, mais dans la vie monastique est prise par d'autres, le lavage du cerveau peut se faire. Alors, comment expliquer le lavage du cerveau? Il faut quand même pouvoir l'expliquer philosophiquement, pour voir si de fait... Alors, il y a le nous. J'aime de dire le nous, c'est-à-dire l'intelligence. Quand je dis l'intelligence, je veux dire ce qui est en nous, de plus l'esprit. Saint Augustin dira le mince. L'esprit, ou la mince. Ça dépend comment vous traduisez. Alors, il y a l'esprit, le nous, c'est l'intelligence. Donc, qui n'ont pas d'organes sensibles. Donc, c'est là où je pourrais dire que l'âme spirituelle, comme dit saint Thomas, émerge du corps. Il y a quelque chose de l'âme spirituelle qui est au-delà du corps. C'est très beau, cette espèce de en chacun d'entre nous. Hein. Maintenant que je vous parle, mon âme spirituelle émerge de mon corps. Vous ne le voyez pas. Ce serait intéressant si on pouvait mesurer. Hein. Alors on verrait plus ou moins l'enfouissement de l'âme spirituelle dans le corps. Alors au bout d'un an de noviciat, tiens, à marée basse, on verrait l'âme spirituelle qui émerge un peu plus. Puis on verra un vieux moine. Je dis pas que son corps a diminué, mais son âme spirituelle, c'est alors tout proche de l'âme de d'aller auprès de Dieu, c'est tellement libéré du corps que le fait n'a plus qu'un seul désir, c'est de voir Dieu, d'être substantiellement lié à Dieu, immédiatement lié à Dieu. Et il y a un lien, parce que mon âme spirituelle, c'est aussi mon âme biologique. Et mon âme biologique, elle informe mon corps. C'est la même âme. Substantiellement, c'est la même âme. Il y a des degrés de vie, mais c'est la même âme. Alors, mon âme spirituelle émerge du corps, ce qui fait que l'âme spirituelle, par le point de vue de l'intelligence et par le point de vue de la volonté, l'appétit spirituel, est au-delà du corps, au-delà de tout organe physique, donc au-delà du cerveau. Elle émerge. Seul le philosophe peut l'atteindre. C'est évident que le savant ne peut pas l'atteindre. Les méthodes scientifiques biologiques ne peuvent pas, parce que la biologique ne peut atteindre que ce qui est biologique, par définition. Donc ils ne peuvent pas atteindre ce qu'il y a de spirituel dans l'homme. Ce qu'il y a de spirituel dans l'homme atteint quelque chose qui est universel. Atteint l'être. L'intelligence et la volonté le bien. Saint Thomas dira la ratio boni. C'est-à-dire atteint le bien dans sa capacité universelle, le bien comme bien. C'est là on voit que l'intelligence, dans sa spécification, est au-delà du domaine sensible, au-delà du domaine physique. Biologique. Donc, l'intelligence et la volonté sont des puissances qui n'ont pas d'organes physiques. Mais l'exercice de ces deux facultés, intelligence et la volonté, s'opère toujours en se servant d'image. Donc, par là, sont reliés au corps. Parce que les images, c'est le fruit de l'imagination. L'imagination, la mémoire, la cogitative sont des facultés de connaissance qui ont un organe biologique qui est le cerveau. Et c'est en ce sens-là que du côté de l'exercice, je dirais que le cerveau est l'organe de l'intelligence. Mais du côté de l'exercice, mais pas du côté de la structure propre, de la spécification propre de l'intelligence et de la volonté. L'intelligence et la volonté, du côté de leur structure, du côté de leur spécification, sont au-delà du cerveau. Tandis que dans leur exercice, ils sont toujours dépendants du cerveau. C'est pour ça que je peux empêcher quelqu'un de penser. Je peux empêcher quelqu'un de poser un acte volontaire en agissant sur le cerveau. En agissant sur le cerveau, alors on connaît les points essentiels sur lesquels on peut agir. On peut déconnecter et empêcher quelqu'un à ce moment-là de pouvoir exercer vraiment son intelligence. À Fribourg, pendant quelques années, il y a eu ce type qui avait un art extraordinaire pour ça, comme chirurgien. C'est connu, point de vue chirurgical. Et à cette époque-là, c'est très peu connu. Il y a 30 ans, ça. C'est quand je suis arrivé à Fribourg, on a beaucoup entendu parler de ça. Le vieux grand-père était agaçant, vous voyez, il avait cette colère affolante. Alors on l'amenait à l'hôpital, on disait ça au chirurgien, c'est rien du tout, petite opération. Là, il devenait comme un gosse de 3 ans. Il était complètement ébloui. Il avait l'avantage, c'est qu'il n'était plus en colère. marchait à quatre pattes. Le bon chien, bien tout, tout qui restait là. C'était fini. Alors c'est aperçu qu'il avait fait ça une cinquantaine de fois. Mais non, il n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'à ce moment-là, vous, évidemment, c'est plus facile. Mais en fond, vous supprimez la possibilité de l'intelligence et de la volonté. Et ça, on peut. Et on peut agir, alors vous voyez, on peut agir biologiquement sur le cerveau. Par certains produits, vous pouvez agir biologiquement sur le cerveau. Et quand vous agissez biologiquement sur le cerveau, sur les organes du cerveau, puisque ça dépend du point de vue biologique, vous pouvez donc, par répercussion, agir sur l'exercice de l'intelligence et de la volonté. Et donc, enlever à quelqu'un la possibilité qu'il a normalement de dire « Non, ça je ne le dirai pas. C'est un secret. Je garde ça. » Je suis pris. Ce qui explique comment ces fausses professions de foi. Alors, ça dure un an. Le produit fait que ça dure un an, ça dure 6 mois, puis après vous revenez normal. Et l'opération chirurgicale, on ne revient pas, hein. Tandis que le point de vue biologique, c'est au bout d'un certain temps que le produit biologique est évacué, on redevient normal. Sauf si, évidemment, vous l'injectez régulièrement. Alors, à Provence, ça peut rester un certain temps. C'est ce qui s'est opéré en Chine, n'est-ce pas? C'est comme disait ce bon père chinois, il disait le lavage du cerveau. Le lavage du cerveau, on l'a aidé avec le produit biologique, c'est bien évident, avec une petite piqûre régulière. Alors, à ce moment-là, vous arriviez à être complètement aboli. Et tous les prêtres qui sont passés par là, au bout d'un an ou 2 ans, faisaient les professions de foi au niveau Mao, en disant que le christianisme n'était rien du tout, et puis ils le proclamaient. Puis au bout d'un an ou après, quand ils partaient, ils redevenaient normal. Et ils avaient comme un souvenir de ce qu'ils disaient. Et alors à ce moment-là, ils ont fait un contre-témoignage de ce témoignage qu'ils avaient donné en prison, en disant dans leur paroisse, nous croyons. Et là, ce qui est très bon, c'est que les autres croyaient qu'ils restaient les mêmes. Alors ils faisaient profession en disant, mais non. Alors seuls ceux qui étaient en ville, vous voyez, alors là, on les rattrapait quand ils faisaient ça. Donc on continuait l'injection. Tandis que ceux qui étaient dans le point de vue rural, ben bon. Alors, c'est très intéressant de comprendre le lien entre l'intelligence et puis le point de vue du cerveau avec le corps. Et de comprendre que c'est du côté de l'exercice. Parce que je ne peux pas poser un acte d'intelligence et de volonté sans que l'imagination coopère. Et saint Thomas nous dit qu'on ne peut pas avoir la plus grande expérience mystique sans que l'imagination coopère. Sauf dans des cas, comme dira Sainte-Thérèse, la grande Sainte-Thérèse, de ligament. Dieu peut lui faire ça. Dieu peut être un meilleur chirurgien que tous les chirurgiens. Mais d'une façon positive, pas d'une façon négative. Et donc Dieu peut faire qu'il puisse y avoir quelquefois un acte tout intérieur au point de vue spirituel, au point de vue de la foi et de l'espérance, qui soit comme coupé de l'imagination. Tout le reste est comme endormi. Oui. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est pas normal. Normalement, ma foi, mon espérance et mon amour s'exercent en se servant de l'imagination. Parce que le conditionnement de ma vie intellectuelle n'est pas changé par la grâce. Et si le conditionnement de ma vie intellectuelle et de ma vie spirituelle dépend dans son exercice de l'imagination, même la foi, même l'espérance, même la charité dépendent de l'imagination. Oui. Donc je peux arrêter l'exercice de la foi. Je peux arrêter l'exercice de l'espérance et de la charité. L'exercice, je ne peux pas agir dessus. La foi, l'espérance et la charité demeurent, mais ils ne peuvent plus s'exprimer. Je ne peux plus proclamer ma foi. Je ne peux plus proclamer la foi. Parce que la proclamation de la foi, c'est l'exercice de la foi. Et cela est en dépendance de l'image. Donc de toute ma vie, du cerveau. Et je peux arrêter ça. Je peux l'arrêter humainement par une petite opération chirurgicale ou par des procédés chimiques, biologiques. Et l'Esprit Saint, lui, peut, du dedans, permettre une vie de foi, d'espérance et de charité au-delà de ce qu'en représente l'imagination. Et ça, c'est l'esprit saint peut-être. C'est la suspension du point de vue cérébral imaginatif. Ce qui est une activité de l'esprit saint, si vous voulez, charismatique, hein, qui n'est pas normale. Normalement, l'esprit saint respecte entièrement le conditionnement de notre vie intellectuelle. Normalement, et le conditionnement de notre vie volontaire. Oui, vous voyez bien ça, je crois que c'est important. Alors vous voyez que quand je dis donc que le cerveau est l'organe de l'intelligence, comprenons bien l'organe de l'exercice de ma vie intellectuelle, mais pas l'organe de la spécification de ma vie intellectuelle. Le cœur biologique reste le symbole de ma volonté, le cœur biologique est symbole et en même temps l'organe de l'exercice de ma volonté. Quand vous voulez faire quelque chose avec une très grande intensité, votre cœur biologique en reçoit un petit coup. Ça, c'est bien évident. Quand vous recevez, et c'est sûr, si on pouvait, quand vous faites oraison avec une très grande intensité, mesurer vos battements de cœur biologique, on verrait que de temps en temps, il y a quelque chose. Hein. On verrait le passage de l'Esprit Saint. Bien au contraire, on verrait cette espèce de paix très très grande. Il y a quelqu'un qui a fait ça à Sainte-Anne, qui s'est mis en oraison en voyant, il a dit, j'ai considéré, il est venu en disant, je suis un peu fou, il voit bien qu'on me mesure un petit peu, on l'a mis, comme l'a guéri, il a regardé, et d'un peu, un peu particulier, ce bonhomme-là, je le connais bien. Alors il a donné les choses, alors il se mettait en oraison, passivement, alors c'est tout. Comme le savait. Très très bien. Alors après, une espèce d'intention. Alors ce type passait tout. Il a dépassé toutes les possibilités. Tellement il y avait une espèce de véhémence extraordinaire. On comprend très bien. Il y a des répercussions fatales de l'Esprit Saint au niveau biologique. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce que là, ça ne peut pas être autrement. Il y a une répercussion de la vie de l'Esprit Saint sur notre cœur au point de vue biologique. Alors évidemment, c'est toujours un domaine très très difficile. Est-ce que c'est l'imaginaire? Est-ce que c'est l'intérêt? Est-ce que c'est l'Esprit Saint? Le discernement entre les deux est très difficile à faire. Bon, je crois que c'est suffisant. Continuons. Nous allons maintenant, alors si vous voulez continuer le point de vue. Ça, c'était une simple petite remarque qu'on m'avait demandé comme précision. Alors maintenant, nous allons continuer à entrer en métaphysique. La métaphysique, nous commençons la métaphysique par le jugement d'existence. Alors vous voyez l'importance. Hein, vous comprenez que le jugement d'existence, c'est redécouvrir l'alliance fondamentale de mon intelligence et de mes sens. Donc par le jugement d'existence, je lutte contre toute cérébralisation. Celui qui est capable de poser un jugement d'existence, ceci est. À ce moment-là, il y a des chutes de neige au point de vue de la cérébralisation. Il y a des chutes. Alors celui qui est à côté, gare à la balance, hein, parce que c'est des chutes. C'est très très vrai. On se purifie profondément de toute idéologie, de toute cérébralisation. Et on comprend que celui qui est mon maître, ceci est, c'est l'autre. Je le laisse passer devant. C'est très beau, ça. Mais au niveau de son être, en tant qu'il est, pas en tant qu'il est d'une vache. Autrement, je tomberais dans l'adoration de la vache. Mais c'est l'autre. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas ceci. Ceci, c'est peut-être quelque chose de tout à fait matériel, mais en tant qu'il existe, en tant qu'il est. Tant qu'il existe. Donc, le jugement d'existence trans-expérience, hein, au-delà de toutes les expériences. Toutes les expériences se font au niveau des qualités, au niveau des déterminations, au niveau des réalités qui ont une certaine autonomie. Il y a un dépassement qui se fait grâce au jugement d'existence, ceci est. Et je mets tout le poids sur est, existe. Alors, normalement, ce jugement d'existence va éveiller en moi une admiration. Alors ça, c'est très important. Voyez, l'éveil du cœur à partir de l'intelligence. L'admiration, c'est quelque chose qui provient du cœur, qui provient de la volonté. C'est ma volonté qui admire. C'est l'aspect affectif, l'admiration. C'est l'aspect affectif. C'est juste l'inverse, voyez, de celui qui est complètement blasé. Celui qui est blasé, vous voyez très bien ce que c'est, celui qui est blasé. Oh oui, oh, j'ai déjà vu, j'ai du connu. Oh, il ne m'apprendra plus rien du tout. Notre monde est un monde blasé, faussement dans l'admiration. Alors il faut réveiller cette chose première du cœur. C'est très profond l'admiration. C'est très profond. C'est pas l'amour. C'est un amour. Mais ce n'est pas l'amour dans ce qu'il a de tout à fait premier. Alors, est-ce que l'admiration, ce serait intéressant à voir, hein? Quelle différence entre le velle et l'admiration? Ce velle, qui est ce premier amour qu'on a vu longuement, hein? Ce premier amour de simple complaisance, on a été éveillé au bien. L'admiration, ce n'est pas l'éveil par rapport au bien. C'est l'éveil par rapport à ce qui est le bien de l'intelligence. Ce n'est pas le bien tout court. Le Velle regarde le bien de l'homme, le bien humain. Et l'admiration, c'est en face du bien de l'intelligence. Quand je découvre l'exister, par le jugement d'existence, je découvre ce qui est le bien d'intelligence. Et c'est l'admiration, là, vous voyez, c'est ce premier amour qui découvre quelque chose qui est inédit, qui est enfoui, auquel je n'avais pas encore pensé. Et je le découvre comme le bien d'intelligence. Il y a une affectivité à l'égard de ça. Je sens affectivement que c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. Je suis toujours en admiration devant quelque chose de grand. Qu'est-ce que c'est quelque chose de grand? C'est le bien d'intelligence. Quelque chose qui est capable de m'ennoblir. C'est ça l'admiration. Je suis en face de quelque chose qui est grand, que je n'avais pas encore vu, qui est quelque chose que normalement on ne voit pas et subitement on le met en pleine lumière. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, à partir de l'admiration, va naître l'interrogation. Il faut voir jugement d'existence, admiration, interrogation. Et c'est dans un climat affectif que l'interrogation peut se faire. Quand il n'y a pas de climat affectif, il n'y a plus d'interrogation. Ça, c'est très vrai. C'est quand vous êtes dans un climat complètement inhibé, vous avez une frousse intense de ce qui va se passer, vous n'interrogez plus du tout. Vous êtes dans la fuite. L'animal qui est traqué, le lièvre qui est pris dans les feux du phare le soir, hein, il n'interroge pas. Il fuit le plus vite possible, il ne sait pas où il fuit, parce qu'il est pris, il a peur. Quand vous êtes dans la peur, quand vous êtes complètement inhibé, quand vous êtes dans l'angoisse, vous n'interrogez pas. C'est pour ça que l'admiration, c'est du reste très très curieux, l'admiration c'est, j'allais dire, l'opposé de ce que c'est que l'angoisse. L'angoisse me replie sur moi, l'admiration m'ouvre à l'autre. Et l'autre, c'est le bien de l'intelligence. C'est l'autre qui est le bien de l'intelligence. Dans l'admiration, il y a ce premier amour à l'égard du bien de l'intelligence. C'est quelque chose de grand, ce l'autre. Tandis que dans l'angoisse, je suis replié sur moi-même. Et l'angoisse va empêcher toute admiration. Alors, on peut peut-être s'arrêter un tout petit moment à la naissance même de cette admiration. Comment va naître cette admiration à partir du jugement d'existence? Comment naît cette admiration pour ouvrir mon cœur dans ce qu'il a de plus profond, s'ouvre à l'autre le bien d'intelligence. Alors c'est quelque chose de très très fondamental, ça. C'est évidemment le bien humain est quelque chose d'encore plus fondamental. Mais à l'intérieur de ce bien humain, il y a le bien d'intelligence. Et vous comprenez que le bien d'intelligence, si je le pousse jusqu'au bout, va me conduire à la contemplation. C'est pour ça qu'au fond, ces deux amours, l'admiration et le valuer, l'amour à l'égard du bien de l'intelligence et le valet qui est le bien de l'homme, vont se rejoindre profondément dans le point de vue de la charité, de façon imminente. Parce que la charité me fait aimer Dieu en tant qu'il est mon bien, ma béatitude, et en tant qu'il est le bien de mon intelligence. Il est ma vérité. Il est ma lumière et ma vérité. Et c'est pour ça que l'admiration va se retrouver au plan spirituel pour éveiller toujours en moi la soif de contemplation. Au plan spirituel, au plan surnaturel. Au plan surnaturel, l'admiration est nécessaire pour la contemplation. Quand il y a des phases où vous êtes plus endormi, vous avez de la peine, ben, essayez de réveiller votre admiration et vous verrez que votre contemplation s'en portera mieux. Parce qu'on a besoin de cela. On a besoin de cette affectivité divine qui me met... Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Et c'est la grandeur du bien de l'intelligence. C'est la grandeur de l'autre qui alors éveille en moi cette admiration et me permet non plus alors ou d'interroger ou de contempler. L'admiration est à la source de l'interrogation ou la source de la contemplation. C'est du reste très beau. Parce que là, on voit comment l'interrogation et la contemplation vont se tenir. Ils vont être proches l'un de l'autre.
Alors, il n'est pas de l'adoration dans le surnaturel.
Qu'est-ce qu'il y a ?
L'admiration naîtrait de l'adoration dans le surnaturel.
Oui, c'est-à-dire, je ne crois pas que c'est directement à l'adoration. Je crois que l'adoration, vous voyez, est plus quelque chose de fondamental qui... Je dirais que l'adoration pourrait naître à partir d'une certaine admiration au point de vue de la création. Le Dieu, je vois la dépendance que j'ai radicalement à l'égard de Dieu, et cette dépendance radicale à l'égard de Dieu me conduit à l'admiration, me conduit à l'adoration. Mais est-ce qu'il y a l'admiration là possible? Je crois que ce n'est pas absolument nécessaire. Je crois que l'admiration est beaucoup plus pour l'éveil de l'interrogation et l'éveil de la contemplation. Oui, plus que l'adoration. C'est ça, on pourra regarder ça après. Et on va essayer ici de regarder le lien. Comment s'éveille en moi cette admiration au niveau proprement philosophique? C'est que je m'aperçois que ce jugement d'existence, il est quelque chose de très très fondamental. Parce que le ceci peut être la table, peut-être le chien, peut-être moi. Et là, vous multipliez ça. Hein. Ceci existe, la table existe, le chien existe, moi j'existe. Nous sommes tous liés dans l'exister. Et nous sommes tous différents dans cette existence. Ça, je peux le constater dans mon jugement d'existence. Mon jugement d'existence est à la racine de toutes les expériences. J'expérimente la table. J'expérimente l'existence du chien, ou le chien existant. J'expérimente moi-même existant. Donc à l'intérieur de toutes mes expériences, je découvre cette trans-expérience qui qui est le point de vue du jugement d'existence, et je vois que ce jugement d'existence a ceci d'extraordinaire, c'est que l'exister unifie toute cette diversité. La diversité de toutes les réalités est unifiée par l'existence. J'en ai comme l'intuition. Je peux avoir cette intuition. Je ne dis pas que c'est l'intuition de l'être. C'est l'intuition de la diversité unifiée par l'une, unifiée par l'exister. Toute cette diversité que je vois et que je constate dans le monde, eh bien, est unifiée par l'exister. Alors, c'est ça qui éveille en moi une admiration. L'admiration à l'égard de l'exister. L'exister est quelque chose de tellement fondamental, l'être, c'est quelque chose de tellement fondamental que toute cette grande diversité que je vois dans l'univers est unifiée par l'être. Alors à ce moment-là, je comprends très bien comment se pose, à partir de cette admiration, qu'est-ce que c'est que l'être. Il y a une espèce d'admiration à partir d'une intuition. Et je crois que toute admiration naît d'une intuition. À partir de cette intuition de l'unification de l'exister dans la diversité, va naître cette admiration. Qu'est-ce que c'est? Cette admiration à l'égard de l'être. D'où l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Et pour comprendre comment le jugement d'existence, dans sa diversité et son unité, qui est saisie dans une intuition, et je crois que quand Maritain parle de l'intuition de l'être, il parle en réalité de cette intuition qui n'est pas l'intuition de l'être, qui est l'intuition de l'exister de l'être qui unifie la diversité. Ça, il y a une intuition là-dessus, ça je suis d'accord. Mais ce n'est pas l'intuition de l'être. C'est l'intuition de l'unité dans la diversité. Comment l'être unifie cette diversité. Et comment, quand je vois que l'être unifie cette diversité, je suis dans cet état d'admiration.